France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment faire vivre les sciences dans les musées ? Chacun le ressent pour son propre compte. Il est devenu impossible de se faire une bonne culture à la fois en physique des particules, en génie génétique, en climatologie, en cosmologie, en anthropologie, en biologie, en chimie, en électronique et en algorithmique. Dès lors, si l'on voulait que nous autres, les citoyens, soyons vraiment éclairés sur tous ces sujets, il faudrait que chacun d'entre nous possède mille et un cerveaux et plusieurs dizaines de vies. Les scientifiques eux-mêmes, qu'on a tendance à distinguer sur ce point du grand public, ne sont en général compétents que localement, dans et aux abords de leur propre discipline. Par exemple, si l'on demandait à brûle-pourpoint à un physicien d'expliquer en détail comment fonctionne un vaccin à ARN messager, il serait certainement embarrassé. De même pour un biologiste, si on l'interrogeait sur la nucléosynthèse primordiale, le boson de Higgs ou la violation de la symétrie CP dans les interactions faibles. Pour toutes ces raisons, on ne saurait défendre une conception par trop scolaire de la citoyenneté. Mais il n'empêche, la diffusion des connaissances scientifiques demeure une affaire publique, dans le sens le plus élevé du terme. La République, à défaut d'être elle-même savante, prétend accorder à la connaissance une valeur spécifique. Et surtout, elle proclame que toute connaissance doit pouvoir être connue de tous, au moins en principe. Car ni le théorème de Pythagore, ni le second principe de la thermodynamique, ni E égale mc2, n'appartiennent à quelqu'un en particulier. Mais il y a un problème. Les sciences ne sont pas faciles à diffuser. De multiples causes sont régulièrement avancées pour expliquer cette situation. J'en ajouterai une. Aujourd'hui, à force de fabriquer de la fugacité, les formes modernes de la communication se transforment souvent en une vaste polyphonie de l'insignifiance. Dès lors, tout travail de discernement, de clarification, de transmission de ce qui est complexe relève quasiment de l'héroïsme. Aucune pensée n'est immunisée contre les risques de la communication, disait déjà le philosophe Théodore Adorno. Dès lors, que faire pour mieux faire connaître les sciences ? Et en la matière, quels sont les atouts des musées ? Pour répondre à ces deux questions, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. D'abord vous, Hélène Lafont-Couturier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du musée des Confluences à Lyon, qui est situé au confluent du Rhône et de la Saône. Et Bruno Macquart, bonjour.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes ancien président d'Universcience, qui regroupe à Paris le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors j'ai parlé dans mon introduction d'une crise de la patience. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'étudier. Est-ce que vous avez l'un et l'autre remarqué dans vos musées respectifs si le public prend plus son temps qu'ailleurs ? Hélène Lafont-Couturier.
Alors, moi, ce que j'ai remarqué au musée des Confluences, c'est que le public reste un certain temps. Le temps moyen de visite est de plus de 2 heures. Et ce temps s'est allongé depuis la crise du Covid. Donc, je n'observe pas. Je trouve au contraire que le visiteur prend le temps de venir, de regarder, de revenir sur ses pas. Et 2 heures de visite, c'est beaucoup, en moyenne.
Bruno Macquart, vous êtes témoin du même phénomène ? Vous avez été témoin du même phénomène ?
Je partirai d'une exposition qui m'a beaucoup touché, qui était l'exposition sur les cancers. C'est une exposition dans laquelle il y avait une ambiance très particulière, où les gens passaient beaucoup de temps. Ce qui m'amène à dire qu'en fait, tout dépend de l'environnement que vous offrez aux visiteurs, et que c'est le métier des musées d'offrir, de créer les conditions propices à un temps, qui est le temps différent de celui qui s'écoule dans la rue et dans nos vies.
Hélène Lafont-Couturier, vous dirigez donc ce musée des Confluences à Lyon. Il se trouve que je l'ai visité il y a quelques années, j'ai des souvenirs assez précis, notamment je me souviens qu'on y trouve un mammouth qui a été découvert en 1859, si ma mémoire est bonne.
Votre mémoire est excellente.
D'où est-ce qu'il vient, ce mammouth ?
Ce mammouth, il a été trouvé à 2 km du musée des Confluences, dans la montée de Choulan, d'où son nom, on l'appelle le mammouth de Choulan. Effectivement, il avait été découvert en 1859 par un des directeurs du muséum d'histoire naturelle de l'époque, qui l'a mis à jour. Et en fait, ce mammouth est composé de plusieurs squelettes.
Agrégat.
Si l'on ose dire. Mais en tout cas, ce mammouth est une pièce importante du musée, une pièce à laquelle les Lyonnais ont toujours été très attachés, parce que lorsqu'il a été découvert, c'était un des premiers mammouths découverts. Il y a eu Lyon, il y a eu Saint-Pétersbourg et Bruxelles qui ont découvert à peu près à la même époque des mammouths. Donc c'est aussi une pièce qui indique que Lyon a connu une période de glaciation à cette époque.
Alors, c'est un musée qui se veut transdisciplinaire.
Oui, c'est un musée particulier, c'est un musée, j'allais dire, atypique par son histoire, par ses collections et par sa manière de traiter les sujets. Le musée des Confluences, c'est un musée qui est dédié aux vivants, qui est dédié aux cultures et aux civilisations, et il en propose un récit universel. Et c'est vrai que les collections qu'il conserve relèvent à la fois de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'histoire, mais aussi de la création contemporaine. Et cette collection, elle est le fruit d'une longue histoire de composition, recomposition, migration de collections. Et parmi elles, il y a 4 collections qui proviennent d'anciens musées lyonnais aujourd'hui disparus. Donc en fait, le musée des Confluences est l'héritier du muséum d'histoire naturelle qui lui-même venait d'un cabinet de curiosité du XVIIe, tout à fait remarquable à l'époque. Le cabinet de deux frères, et j'aime citer leurs prénoms parce que Gaspard et Balthazar, c'est presque le début d'un roman qu'on aimerait écrire. Ensuite, la deuxième collection importante, c'est la collection d'Émile Guimet. Parce qu'on l'oublie, Émile Guimet était lyonnais et il va fonder un premier musée à Lyon 10 ans avant le musée parisien. Et donc, par cette branche-là, c'est une collection asiatique collectée par Émile Guimet. La troisième collection d'importance, c'est la collection qui provient du musée colonial, fondée par Édouard Herriot en 1927. Et enfin, les collections des missions catholiques de l'œuvre de propagation de la foi de Lyon, qui, grosso modo, couvre la période 1822 jusqu'à 1960.
Donc vous êtes les héritiers d'un très lourd patrimoine.
D'un très lourd patrimoine, effectivement, avec des collections d'une telle variété, eh bien, qu'est-ce qu'on fait et quel musée on peut inventer ?
Quand est-ce qu'il a été créé, le musée des Confluences ?
Le projet naît à la fin des années 90, 98-2000, et le musée ouvre en 2014, en décembre 2014.
Je me tourne maintenant vers Bruno Macquart. Univers Sciences, c'est 2009, la date de création ?
2010, mais qui regroupe deux sites qui ont une histoire plus ancienne, puisque le Palais de la Découverte a été ouvert en 1937, au moment de l'exposition internationale.
Inauguré par Jean Perrin.
Exactement. Et André Léveillé, on pourrait y revenir. Et ça devait être une exposition temporaire, et puis ça a eu tellement de succès que, ben, ma foi, on a rouvert en 38 après quelques travaux, et entre-temps, Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation nationale et qui avait comme secrétaire d'État Jean Perrin, avait été négocié auprès de Bercy les crédits nécessaires pour une pérennisation sur site du Palais de la Découverte. Et la Cité des Sciences et de l'Industrie, quant à elle, elle est d'une autre génération, puisqu'elle date de 86, et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui en a décidé la création et son installation dans le 19e arrondissement de Paris, dans le parc de la Villette.
Combien est-ce qu'il y a de visiteurs par an au musée des Confluences et à la Cité des Sciences et de l'Industrie?
Alors, à côté de la Cité des Sciences, on est un tout petit musée, mais le musée des Confluences est quand même à une moyenne de 700 000 visiteurs par an. Et effectivement, on est à plus de 7 millions de visiteurs depuis l'ouverture. C'est ce qui fait de nous le musée le plus fréquenté en dehors des grands établissements parisiens.
Ce qui veut dire que les établissements parisiens ont beaucoup plus de visiteurs.
Alors les deux sites, il y en a un qui est en ce moment en travaux, le Palais de la Découverte, alors que donc si on se ramène avant la crise Covid, 2019, 3 millions de visiteurs, 2,5 millions sur le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie, 500 000, j'arrondis évidemment, 500 000 au Palais de la Découverte. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des expositions itinérantes, donc il y a aussi des gens qui voient nos productions et qui ne viennent pas dans nos sites, qui sont ailleurs, en France ou à l'étranger. Et puis il y a tout ce que nous déployons sur tout ce que l'établissement déploie sur les réseaux sociaux, sur Internet, puisqu'il y a un troisième lieu numérique, le blog, qui fait qu'aujourd'hui, Univers Sciences, c'est pas simplement deux sites physiques, c'est beaucoup d'autres choses.
Mais est-ce que vous connaissez vos publics, par exemple la proportion de jeunes par rapport aux vieux, d'hommes par rapport aux femmes, de gens qui viennent de Paris pour Universcience et de Lyon pour le Musée des Confluences, ou est-ce que les gens qui viennent vous voir viennent d'à peu près partout ?
Alors, on connaît parfaitement au Musée des Confluences. Depuis l'ouverture, on a en permanence des enquêtes de public. Et c'est un vrai outil de gouvernance aussi. Donc, on a un public fidèle. On a un public jeune, puisque la moyenne d'âge, c'est 34 ans. Le public provient effectivement majoritairement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 64% de son visitorat. On a 17% d'un public étranger. Et puis les nationaux. Il y a donc un fort ancrage local, avec un public qui vient et qui revient. Donc on observe qu'un visiteur sur quatre est déjà venu dans les 12 mois qui précèdent. Et on observe qu'effectivement on maintient notre niveau d'abonnés au musée, avec plus de 15 000 abonnés par an. Donc en fait, il y a vraiment cet attachement très fort du public qui a adopté le musée dès l'ouverture, qui vient, qui revient. Et ce que l'on observe aussi, et qui n'est pas si commun dans les musées, c'est qu'on a une part importante d'un visitorat qui vient pour la première fois dans un musée, lorsqu'il pousse la porte du musée des Confluences. Ça représente environ 40 000 visiteurs par an, et ce n'est pas rien.
Et comment vous expliquez cela ? Alors, parce qu'on dit souvent que la science fait peur. Et donc,
alors, je pense que les musées font peur aussi, peuvent être intimidants.
Donc les deux qui se combinent, ça devrait faire encore plus peur.
Ben, je pense que c'est intimidant pour un public qui n'en a pas forcément les codes ou qui pense que ce n'est pas pour lui. D'abord, c'est un bâtiment qui est souvent impressionnant. Il y a des marches. On pousse une porte, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver derrière la porte. Et c'est vrai que le bâtiment du musée des Confluences, effectivement, il y a ces marches, mais c'est entièrement vitré. On pousse la porte, on voit ce qu'on a derrière la porte. La billetterie n'est pas tout de suite. Et surtout, on peut circuler dans le bâtiment, on peut monter sur la terrasse pour voir le point de vue sur la ville, sans même prendre son billet. Ce qui est lié à un billet d'entrée, c'est vraiment le monde des expositions, c'est le parcours permanent et les expositions temporaires. Donc je pense que ça aide. On peut s'acclimater, circuler, et puis un jour prendre un billet et ensuite aller dans l'exposition.
Donc il y a des expositions permanentes, Hélène Lafoncouturier, il y a aussi des expositions temporaires. J'ai vu sur le site que, en ce moment, je crois qu'elle vient de se terminer, il y en a une qui s'appelle Le temps d'un rêve.
Qui est terminée.
Qui vient de se terminer. Une autre qui continue, qui s'appelle Trop fort,
oui.
Au pluriel.
Trop fort au pluriel, et c'est une exposition qui est dédiée plutôt à un public jeune, des 8-12 ans. C'est une exposition qui explore les capacités extraordinaires qu'ont certaines espèces à pouvoir survivre dans des milieux extrêmes.
Et pourquoi ça intéresse plutôt les jeunes que les vieux ?
Non, on l'a conçu pour les jeunes.
Et tout le monde
est là. On observe que les adultes y sont tout autant.
Parce que trop fort, ça intéresse à mon avis toutes les classes d'âge.
Hein. Absolument. Mais c'est vrai qu'on l'a conçu au départ pour les enfants et qu'elle fonctionne pour un public à la fois familial mais individuel.
Il y en a une autre qui s'appelle Amazonie au pluriel.
Amazonie au pluriel, oui, sur l'Amazonie brésilienne. C'est une exposition que l'on a conçue à la suite de collectes que l'on a conduites en Amazonie chez trois peuples amazoniens, à la fois les Achaninka, qui sont à la frontière du Pérou, les Wayana à Palay, et enfin chez les Kayapo, mais chez les Membekokri. Et en fait, la personne qui est en charge des collections Amériques au musée est partie vivre au sein de ces différentes populations pour actualiser des collections plus anciennes. Et l'issue de ce travail a été de vouloir montrer, de rendre compte de la vie de ces différentes populations. Et on a conçu l'exposition en leur donnant la parole. Et c'est ce qui fait la force de cette exposition. On est vraiment face aux représentants de ces populations.
Donc il y a aussi des tables rondes, il y a des animations,
non,
j'imagine.
Ils sont présents par l'image, par des témoignages audiovisuels, par des objets, par des productions qu'ils réalisent, soit de la vannerie, soit textile. Et l'exposition est très vivante. Et lorsqu'ils sont venus à l'inauguration, ils nous ont confié que lorsqu'on était allé les voir la première fois, ils s'étaient demandé pourquoi on venait. Et aujourd'hui, ils sont très heureux du travail accompli. Et ils considèrent, et ils nous le demandent, d'être vraiment le conservatoire de leurs pratiques et de leurs rituels aujourd'hui.
Est-ce que vous observez, Hélène Lafoncouturier, dans votre musée, donc le musée des Confluences, une grande variation du nombre de gens qui viennent les visiter? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus attractifs? Est-ce que vous le savez à l'avance? Est-ce que vous avez des surprises?
C'est une très bonne question parce que effectivement, on aimerait avoir les réponses à l'avance. On ne les a jamais. On est parfois surpris. On sait qu'il y a des sujets qui marcheront plus que d'autres. Mais quand nous avions présenté l'exposition Prison, je ne m'attendais pas du tout à avoir dans cette exposition un public familial, un public de jeunes, de grands, d'adolescents qui vraiment étaient intéressés par le sujet. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand on a réalisé et qu'on a repris l'exposition présentée par Universcience au Palais de la Découverte sur le thème de l'amour, alors là, on a eu un public jeune absolument incroyable, de grands adolescents, très nombreux.
Sur l'amour.
Sur l'amour, qui venaient. Et pour la Saint-Valentin, je me souviens d'un jeune couple arrivant. Elle avait bandé les yeux à son mari. Et voilà. Et puis elle lui a fait une déclaration, je pense, en rentrant dans l'exposition.
Mais ça, c'était quand même prévisible, non?
C'était prévisible, mais pas à ce point-là. Et sur ce. Vraiment, c'était très générationnel. On les voyait danser dans l'exposition, c'était assez formidable, je dois dire.
J'ai une dernière question à ce propos, avant de poser les mêmes questions à Bruno Macquart. Hélène Lafoncouturier, est-ce qu'il y a une grande différence entre le nombre d'hommes et de femmes qui viennent visiter les musées de sciences? Parce qu'on parle beaucoup de la parité en sciences, dans le domaine de la recherche par exemple. Est-ce que ça se voit dès la fréquentation des musées?
Alors c'est quelque chose qui a évolué depuis l'ouverture. À l'ouverture, on observait une plus grande part de visiteurs féminins. Oh. Et aujourd'hui, ça tend vraiment à l'équilibre.
C'est curieux ça. Parce qu'il y a moins de femmes en sciences.
Oui, mais il y a peut-être...
que d'hommes, et pourtant elles vont plus dans les musées.
Ben...
comment expliquer ça? Bruno Macquart, vous avez une explication?
C'est souvent les maires qui organisent les sorties. C'est une explication,
mais
qui fait qu'elles
se sentent plus investies, on va dire, du sujet au sein des familles. Mais je rejoins ce que dit Hélène, c'est que, en fait, le visitorat est assez équilibré. Il y a une chose sur laquelle je voudrais peut-être insister, c'est la part des visiteurs scolaires. Il n'y a pas que des familles qui viennent, il n'y a pas que des adultes, mais il y a aussi des scolaires et au Palais de la Découverte, comme à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est entre 20 et 25%. C'est énorme. C'est énorme. C'est important. Nos musées, nos centres de sciences ne sont pas des écoles. Nous ne sommes pas la dernière salle de classe des écoles primaires, des collèges ou des lycées. Mais on est une autre façon d'exposer les enfants, puisqu'on parle d'eux, aux questions scientifiques, en leur montrant que la science n'est pas étrangère à leur vie. Et qu'au contraire, la science est partout. Et que la découvrir apporte de la joie et la comprendre... apporte du plaisir. Nous travaillons énormément dans les musées et centres de sciences à la relation avec les écoles. On dit souvent avec Hélène qu'il est important que les enfants, dès le plus jeune âge, fréquentent nos établissements. Et d'ailleurs, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, comme vous le savez, nous avons une Cité des Enfants. L'établissement s'enorgueillit, elle est aussi en travaux. Les travaux d'avoir accueilli 833 000 visiteurs rien qu'à la Cité des Enfants. Donc ça commence à 2 ans, et puis ça se termine à 10 ans, et puis on a complété l'offre. Ça a ouvert il y a un peu plus d'un an maintenant, avec une cité des bébés. Alors vous allez me dire, mais des bébés au musée, ça n'a pas de sens. Bien si, parce qu'en fait, il faut que les musées, les centres de sciences, les lieux de culture fassent partie dès les premiers pas dans la vie de l'environnement.
Mais qu'est-ce qu'on montre aux bébés?
Alors on montre rien. On leur offre un environnement dans lequel, en fait, on éprouve, on met en jeu leur curiosité, leur capacité motrice quand ils sont tout petits, après ça, leurs aptitudes sociales. Bref, ça, c'est un instrument de mobilisation des compétences. On introduit des dimensions collectives et puis on incite les enfants à raisonner, à comprendre. Et c'est le début de l'apprentissage scientifique, finalement. Ce n'est pas un cours de science. De toute façon, nous ne délivrons pas de cours de science. Nous sommes ce qu'on appelle des institutions d'éducation informelle. Ce qui n'est d'ailleurs pas inintéressant de souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'école formelle s'intéresse aux techniques que nous avons développées dans nos musées depuis des années pour moderniser les apprentissages. Il y a même, à Stockholm, j'aime bien citer cet exemple, un centre de science qui s'appelle Tom Tits Experiments, dans lequel il y a une école à l'intérieur. Ça, pour moi, ce serait le rêve, c'est qu'on implante des écoles dans les musées pour qu'il y ait une intimité et qu'on passe de la salle de classe au musée aussi facilement qu'on va dans la cour de récréation.
En 2009, quand Univers-Sciences a été créé, Bruno Macquart, on lui a donné pour mission de diffuser la culture scientifique, technique et industrielle auprès de tous les publics, quel que soit leur âge, leur niveau de formation, leur origine géographique ou sociale. C'est quand même un vaste programme.
C'est un vaste programme. Ça veut dire que s'adresser à tous, c'est en fait s'adresser à chacun. Il faut essayer de, on le disait tout à l'heure, de connaître ses publics. C'est l'application de la méthode scientifique par les musées. On cherche d'abord à connaître le milieu sur lequel on intervient. Puis on expérimente beaucoup, on fait beaucoup de tentatives. J'avais l'habitude de dire à mes équipes, il faut qu'on apprenne à échouer. C'est très sain d'échouer. On essaye, ça marche, on recommence, ça marche pas. C'est pas grave, on fait autre chose. Et je pense qu'une des nouvelles dimensions de l'action des centres de sciences, c'est d'aller chercher des publics qui sont pas a priori ceux auxquels on va s'adresser, mais je pense par exemple à la communauté du jeu vidéo, qu'on pourrait dire totalement étranger au musée. La Cité des sciences et de l'industrie a ouvert un espace permanent sur le jeu vidéo et du coup a créé toute une série de d'activités. On a un festival d'e-sport qui attire un public.
E-sport,
exactement.
Avec un E.
Qui attire un public nouveau et qui, du coup, nous permet de les amener aussi, de leur montrer tout le reste, tout ce qu'on fait. Et c'est là aussi c'est ce qui est intéressant.
Ils sont piégés.
Ils sont pas piégés.
Ils sont piégés par leur passion.
Mais ils viennent. ils viennent. Parce que dans un monde où la numérisation va croissant, il faut réenchanter les lieux physiques. Et je pense que des lieux dans lesquels on peut faire plein de choses, on peut passer une demi-journée, voire une journée, c'est important. C'est important d'y aller à plusieurs aussi, pour expérimenter le plaisir d'être ensemble et de faire des choses ensemble.
Je vous pose maintenant la question que je posais à Hélène Lafont-Couturier. Est-ce que vous observez une certaine mixité entre les publics féminins et masculins dans les expos? Est-ce que, si oui, est-ce que c'est toujours de la même façon? Pour toutes les expos, est-ce qu'il y a des grandes variations?
Alors, il y a des variations. Toujours, il y a des variations. On a remarqué, c'est une constatation empirique, que quand on traitait de sujets de santé, la part des plus de 60 ans doublait dans la fréquentation. Ce qui nous a d'ailleurs amené, parce que ça faisait partie des cibles de public qu'on souhaitait développer, à mettre l'accent sur cette question. J'ai parlé tout à l'heure de l'exposition cancer, mais on a fait une exposition qui s'appelle Microbiote, sur microbiote intestinal, sujet a priori pas le plus joyeux en premier lieu, mais qui a attiré énormément de public, qui a fait une très belle carrière internationale.
Ça vous a estomaqué?
Ça m'a un peu estomaqué, mais c'est là qu'on doit déployer aussi... des trésors de mise en scène. Nous sommes des metteurs en scène de sujets. Encore une fois, pour expliquer aux gens que la science, elle n'est pas en dehors d'eux, elle n'est pas en dehors de leur vie. Nous sommes, finalement, nous mettons en pratique ce que la Tour appelait les humanités scientifiques.
Là, vous avez parlé des âges de vos visiteurs, garçons-filles, chez les enfants et chez les adultes.
Alors là aussi, c'est un sujet et ça me permet de vous dire que nous sommes, les musées de sciences, attentifs à la question de l'incarnation. Il faut que les petites filles, en particulier, voient que les scientifiques, c'est pas forcément des bons hommes. Et qu'il y a des filles qui font des études de sciences et qui sont brillantes. On a un gros travail à faire pour s'assurer que la représentation qu'on donne est une représentation équilibrée. Et ça passe par faire venir dans les établissements, la Cité des sciences et de l'industrie, le Palais de la Découverte le font, des jeunes doctorants et doctorantes qui s'adressent à des gamins qui ont 10 ans de moins qu'eux ou 15 ans de moins qu'eux et qui expliquent ce qu'ils font. Je pense que une des clés, même si globalement la société n'est pas bonne sur le sujet en France, sur la promotion des sciences auprès des petites filles, mais une des clés, c'est montrer l'incarnation. Et quoi de mieux qu'un musée pour montrer comment elle s'incarne dans des êtres de chair.
Hélène Lafont-Couturier, vous êtes directrice du musée des consciences depuis combien de temps?
Je suis arrivée lorsque le chantier redémarrait, donc en 2000, après 2010, enfin 2011.
Donc ça fait à peu près 15 ans.
Oui.
Est-ce qu'au cours de ces 15 ans, vous avez vu des évolutions du public dans son rapport à la science, dans son rapport à la question de la vérité, dans ses questionnements?
En fait, ce que j'observe au Musée des Confluences, c'est une adhésion du public et d'un public qui, lorsqu'il est venu une fois, revient. J'ai une petite anecdote. Quand on a ouvert un soir, j'étais dans les espaces où le public circulait, il y avait un papa qui voulait partir avec son petit garçon, et le petit garçon lui disait « mais je veux pas, je veux rester », et le père lui dit « non, écoute, il faut qu'on y aille », et le petit garçon mais... Et puis il résistait, alors le père à bout d'arguments lui dit « écoute, on reviendra ». Et le petit garçon regarde son père et lui dit « oui, tu dis toujours ça et on revient jamais ». Et son père lui répond « oui, mais ici c'est différent
». Bravo.
Donc c'est vrai que ce que j'observe, c'est une forme d'attachement réel d'un visitorat qui grandit presque avec le musée. On a vu des enfants qui ont grandi, et pour les 10 ans que l'on a fêté l'année dernière, c'était tout frappant, c'était vraiment très frappant. Et je me délecte quand je vois ces enfants qui s'émerveillent, qui vont grandir, qui tout d'un coup ont un autre regard. Et à chaque visite, on va un peu plus loin dans la connaissance. Et c'est vrai que le parcours permanent est vaste, les propos sont denses, enfin, c'est quand même le récit de l'humanité qui est déroulé. Dans les expositions temporaires, il y en a souvent entre 4 et 5. Et c'est vrai que le visiteur peut passer un temps long dans le musée, mais on conçoit nos expositions pour être vraiment... en fait, il y a ce que l'on doit... Enfin, on doit la... Il y a un enjeu de confiance dans ce que l'on... propose comme discours au visiteur, car le visiteur, en fait, il a une confiance récurrente dans le propos du musée, justement en face à la diversité des sources d'informations aujourd'hui. Donc on se doit d'avoir vraiment cette parole scientifique, mais il faut la rendre intelligible. Et c'est vrai qu'une des marques de fabrique dans l'ADN du musée, il y a eu au départ, avec cette collection si diverse, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a voulu, plutôt que de juxtaposer ou de vouloir présenter par époque ou par discipline les choses, on a décidé, un peu à l'image du site, de faire se rencontrer, j'allais dire confluer, à la fois les objets et les disciplines. Et pour donner... Et pour que ça soit compréhensible pour le public, on est parti sur un principe narratif. Donc on raconte une histoire en s'appuyant et en l'illustrant par les objets. Et dans des scénographies qui sont immersives, mais l'immersivité, elle est liée, c'est presque une forme de théâtralité qui est mise en place. Et c'est vrai que ça accompagne le visiteur qui rentre dans le sujet, qui en ressort souvent émerveillé, ils emploient le terme. Mais je crois que c'est le Muséum d'Histoire Naturelle qui avait pour slogan « émerveillé pour instruire ». Mais je crois beaucoup à l'émotion suscitée soit par un objet, l'approche sensible. Et quel que soit l'âge, on peut apprendre à tout âge et avoir envie d'apprendre. Quand on commence à apprendre, je pense que quelque part on a gagné.
Ben, l'émotion que j'ai ressentie en voyant un mammouth au Musée des Confluences est toujours là, vivace. Je vais vous poser, parce que vous donnez l'impression de très bien connaître vos publics, mais je vais vous poser une question en forme de paradoxe. Est-ce que vous connaissez les publics que vous ne voyez pas, que vous avez du mal à atteindre? Est-ce que vous les avez identifiés? Et est-ce que vous avez des démarches pour tenter de les faire venir ou de les rencontrer d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous voyez, par exemple, l'effet que peuvent avoir certains traumas scolaires? De gens qui, ayant eu un mauvais rapport avec les sciences à l'école, estimeront toute leur vie que ça n'est pas fait pour eux et que quasiment leur cerveau n'est pas autorisé à fréquenter les sciences d'une façon ou d'une autre.
Je vous remercie de me poser cette question, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et c'est vrai qu'au musée, je veux déjà que le public soit accueilli. Quand il vient ici, il faut que, avant même, sur les marches, normalement, on doit l'accueillir et faciliter son arrivée au musée. Mais surtout, on se préoccupe du public qui ne vient pas. Et pour ça, on a mis en place tout un système de dispositifs on appelle ça les hors les murs. Donc c'est soit des formes d'ateliers avec des objets de médiation, qu'on appelle les objets voyageurs, et on se rend dans des territoires qui vont pas au musée, dans des milieux qui y vont peu, ce qu'on appelle le public empêché. Donc on va à la fois dans des lieux défavorisés, mais on va aussi à l'hôpital, on va dans les prisons, on va dans des EHPAD. On a mis en place un double conteneur avec un atelier pour les enfants qui se déplacent sur le territoire, sur le thème de pour alerter sur la biodiversité. On a aussi créé des cabanes à histoire qui parcourent le territoire, qui vont à la fois dans des entreprises, dans une gare, dans un hôpital aussi, et qui sont un petit pas pour aller vers le musée. Ensuite, et ça c'est très récent, c'est depuis lundi 26, c'est opérationnel, nous avons mis en place avec les Hospices Civils de Lyon le pass Colibri. C'est-à-dire qu'on offre à tout jeune parent un pass qui lui permet de venir au musée librement et gratuitement, aussi souvent qu'il le veut, de la naissance jusqu'aux 1000 jours de l'enfant.
1000 jours.
1000 jours parce que, en fait, c'est le temps où l'on estime que le nombre de connexions neuronales, alors c'est pas du tout mon sujet, hein, mais c'est ce que j'ai appris, peuvent aller jusqu'à 1 million par seconde, ce qui veut dire que la moindre interaction, le moindre regard, en fait, et c'est ce qui permet, ça contribue à l'équilibre émotionnel et cognitif de l'enfant. Et donc, je me dis que si on, dès la sortie de maternité, un parent a la facilité d'aller au musée, si c'est pas son monde, ça l'aidera peut-être ou ça lui donnera peut-être envie de pousser la porte. En tout cas, j'ai envie de le croire. Et puis qu'une fois qu'il vient, si ça aidera et ça jouera sur la, ça va contribuer à la santé future de l'enfant. Et puis il y aura un plaisir parce que, enfin, se faire du bien, c'est faire du bien à l'enfant aussi. Et je me dis que si on ouvre l'enfant à apprendre à regarder, à s'interroger, eh bien quelque part, on gagne une première manche. Voilà, je crois beaucoup là-dessus. Donc je tiens à ce pass Colibri qui est tout nouveau et qui, j'espère, va aller vers un public qui ne vient pas. On a fait aussi, comme Univers-Science, on a créé un nuage des petits, dédié aux 2-6 ans.
Et nuage des petits.
Oui, parce qu'on l'a mis au dernier étage. Et comme la partie qui accueille les expositions s'appelle le nuage, on s'est dit c'est le nuage des petits et c'est un espace qui leur est dédié sur le thème de la fragilité en reprenant une exposition qui avait été conçue par Univers-Science en attendant de produire notre propre exposition pour les enfants. Et puis on a commencé une offre depuis le mois de septembre dernier pour les 0-18 mois. Et pour les 18-36 mois. Et effectivement, on est sur cette interaction de musique, d'une rencontre. Enfin, on les éveille. Et je crois que c'est important. Et je pense que ça fait du bien aussi à l'enfant, aux parents. Je veux dire, quand on vient d'avoir un enfant, on peut être un peu désarçonné. On ne sait pas. On est parfois un peu seul dans une ville. Et venir dans un musée où vous êtes accueilli, où votre enfant est le bienvenu, s'il pleure, ce n'est pas un problème. Je veux dire, je pense qu'on peut donner l'envie de venir et de revenir, et je crois que c'est le rôle des musées.
Bruno Macquart, vous êtes d'accord, j'imagine. Est-ce que, à l'Univers-Science, quand vous étiez le président, vous avez aussi étudié les publics qui ne viennent pas, qui sont difficiles à attirer, pour toutes sortes de raisons? Et est-ce que vous avez, comme Hélène Lafoncouturier au Musée des Confluences, tenté de les approcher hors les murs?
On avait identifié 3 cibles de public, donc 3 cibles de public qui ne venaient pas assez ou qui ne venaient pas du tout. Les jeunes adultes, parce qu'on avait constaté que on venait quand on était enfant avec ses parents, et puis après ça on disparaissait et on revenait quand on était parent. Donc il y avait une espèce de
trou.
Il y avait un trou qui valait qu'on comble. Et donc on a déployé toute une série d'offres. On a beaucoup travaillé sur le jeu vidéo, mais on a aussi créé des soirées. Interdites au moins de 18 ans, non pas parce que elles sont grivoises, mais parce que c'était des soirées sans enfants, pour qu'en fait, on offre le musée de manière festive aux jeunes. Deuxième cible de public, les seniors, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis la troisième cible, c'est les touristes, parce que la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la Découverte ne font pas partie des établissements visités en priorité par les touristes internationaux. En tout cas, jamais la première fois quand ils viennent à Paris. Et donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on les fait venir dans ces établissements quand ils viennent pour la deuxième ou la troisième fois. À l'exception des Italiens, qui sont des fans des centres de sciences. Et donc les Italiens viennent. Je ne sais pas si c'est la même chose. Lyon est plus proche de l'Italie que ne l'est Paris. Mais en tout cas, les Italiens, c'est la nationalité rêvée pour ceux qui gèrent des musées sans. Donc oui, nous les identifions et oui, nous cherchons évidemment à les faire venir en nos murs, mais aussi à l'extérieur des murs. Et toute une politique a été déployée pour que nous sortions de nos murs, sachant qu'il existe en France tout un réseau de centres et de musées de sciences partout en France, qui font remarquablement leur travail. Il y en a à Villeneuve d'Ascq, il y en a à Grenoble, il y en a à Toulouse, il y en a à Bordeaux, il y en a à Rennes, à Lyon bien évidemment. Et donc un établissement comme Univers-Sciences a réfléchi à sa politique d'insertion dans les territoires de manière complémentaire de ce que faisaient ses collègues, de manière à ce qu'on additionne nos forces plutôt qu'on se fasse concurrence bêtement.
Quand vous parlez de complémentarité, ça veut dire que c'est différent, mais que c'est pas contradictoire, si je comprends bien.
Ouais, à un moment donné,
c'est différent.
On a aussi demandé en quoi est-ce qu'on peut être utile à la communauté, en tant qu'établissement parisien, national, qui a des moyens. Et donc, ce qu'on a fait, très simplement, c'était de mettre à disposition gratuitement tous les contenus de ce qu'on appelle Science Actualité, qui est une exposition dématérialisée, en images, conçue un peu comme un magazine, sur l'actualité scientifique. Et puis, à la suite de notre engagement dans les questions de promotion de l'esprit critique, on a, à destination des bibliothèques, parce que ce sont des partenaires sur lesquels il faut s'appuyer en matière d'esprit critique, on a créé à leur intention une espèce de mallette, un critique kit qui leur permet d'adresser cette question en totale autonomie vis-à-vis de leur public, parce que les bibliothèques sont au monde de la culture ce que les pharmacies sont au monde de la santé. C'est toujours ouvert, il y en a partout et c'est gratuit.
Mais il n'y a pas de carte vitale.
Il n'y a pas de carte vitale.
J'ai une question pour tous les deux, pour vous deux, Hélène Lafoncouturier et Bruno Macquart. On a souvent utilisé, pour promouvoir la culture scientifique, l'idée qu'il fallait mettre la science en culture. Mais est-ce que c'est pas l'inverse qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas la culture qu'il faut mettre dans la science? De la culture qu'il faut installer dans la science pour qu'elle apparaisse comme étant plus proche de nous?
Bruno Macquart. Si vous permettez, je dirais que ça, c'est une question que ne se posent pas nos concitoyens. Parce que quand on leur pose la question, parce qu'elle leur est posée régulièrement, est-ce que la science fait partie de la culture? Ah bah oui, ils répondent avant le cinéma. Avant le cinéma. Donc ça n'est pas un sujet posé de cette manière-là.
Maintenant, en tout cas dans la façon de la présenter.
Maintenant, évidemment, comment nous faisons pour que la science fasse partie du bagage de l'honnête femme ou de l'honnête homme du 21e siècle, c'est ça l'action. Et comment est-ce qu'on réduit cette distance théorique entre les deux? Ben, par exemple, quand vous faites une exposition sur la foule ou les foules, une exposition jardinier, qui est en ce moment la Cité des sciences et de l'industrie, vous allez chercher les gens avec des sujets qui sont les leurs. Quand vous organisez des grandes kermesses qui s'appellent l'orchestre culinaire, vous invitez les gens à venir cuisiner, vous allez les chercher par quelque chose qu'ils connaissent. Et puis après ça, vous les amenez à autre chose. Je pense que tout notre génie, ou en tout cas tout notre métier, notre travail, c'est de trouver les ressorts pour parler du monde dans lequel on vit, tel qu'il est aujourd'hui, à la fois de manière extrêmement populaire et de qualité. Si je dois résumer l'action que nous avons menée avec nos équipes toutes ces années, pendant ces 10 années, c'est comment être populaire et de qualité.
Hélène Lafoncouturier, vous acquiescez, ça veut dire que vous avez fait la même analyse au Musée des Confluences à Lyon?
Oui, j'acquiesce et je pense que effectivement une façon de parler au public, c'est d'être ancré dans son époque et puis de contribuer aussi au débat environnementaux, sociaux de notre société, d'ouvrir au monde et d'être intelligible en fait. Il faut que le public comprenne ce qu'il voit quand il vient. Parce que s'il ne comprend pas, il se dit « c'est pas pour moi, il reviendra pas ». Et je pense que la première porte, c'est celle-ci, pour moi.
Si je vous dis la science et la culture, voilà le secteur accueillant. Vous êtes d'accord?
La science et la culture...
Non, je vous le dis parce que c'est une anagramme. qui a
Alors,
été trouvée par Olivier Gartin. Mais je vous l'ai dit, l'anagramme. La science et la culture a pour anagramme le secteur accueillant.
Le secteur accueillant.
Et la promotion des sciences a pour anagramme l'anticorps des économies. Mais ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça a été trouvé par Olivier Garcia.
C'est très beau.
elles vous sont offertes.
Je suis d'accord pour le secteur accueillant.
Accueillant, oui, parce que vous parlez de l'accueil des publics qui doivent se sentir chez eux
dès qu'ils arrivent. Nous sommes des lieux de vie aussi.
Mais tout à l'heure, Bruno Macquart a parlé de l'esprit critique. On en fait la promotion. Mais est-ce qu'on n'y va pas un peu trop fort? Je veux dire, est-ce que l'esprit critique, quand il devient trop puissant, ne vient pas corroder l'idée même de vérité?
je pense qu'on en est encore loin. Le numérique a ouvert un monde nouveau dans lequel il faut que un monde qu'il faut qu'on arpente, qu'il faut qu'on explore, qu'il faut.
Non, mais je parle de l'esprit physique, pas du numérique.
J'entends bien, mais ça conduit, en particulier sous l'effet des réseaux sociaux, à égaliser toutes les paroles. Et à faire de chacun non plus un lecteur mais un auteur, comme disait Habermas. On a mis beaucoup de temps à apprendre à lire, il faut aussi qu'on apprenne maintenant à écrire. Et ce qui rend d'autant plus nécessaire, non pas la fourniture de connaissances, ça c'est un peu le vieux modèle sur lequel nous avons été conçus les uns et les autres, pas que les musées, mais aussi les universités et d'autres institutions. Le sujet n'est plus de savoir est-ce que telle et telle connaissance vous ne l'avez pas, il est plutôt d'aider les gens à trier l'information, à se faire un jugement par eux-mêmes, à qualifier l'information, à reconnaître ce que sont les biais cognitifs, toutes choses qui sont très très nouvelles. Et je pense qu'on ne mettra jamais assez l'accent sur l'esprit critique. C'est pour ça que Univers Science a lancé un baromètre de l'esprit critique qui cette année va s'intéresser à la thématique de l'argent, après s'est intéressé à l'alimentation, à l'intelligence artificielle, au changement climatique, au vaccin, et puis en écho au baromètre, l'établissement a créé un printemps de l'esprit critique, qui est une manifestation qu'il a d'abord faite pour lui, et puis qu'il a ouverte à toute structure intéressée, d'ailleurs des musées, mais pas que, aussi toute une série d'acteurs variés. C'est très intéressant de voir une communauté d'ailleurs se dessiner. Et l'édition 2025 a eu lieu simultanément dans 120 lieux en France. Donc 120 partenaires ont rejoint Univers Science, ce qui montre l'appétit de toute une série d'acteurs, on va dire de la sphère culturelle, de la sphère éducative, de la sphère d'accueil du public pour ces questions-là. Je pense que s'il y a une priorité dans les années qui viennent, c'est il faut pas relâcher l'effort, il faut même que l'école s'y intéresse, elle a commencé à le faire, les médias s'y intéressent, c'est une cause d'utilité nationale et démocratique.
Mais Bruno Macquart, comment ça marche un baromètre de l'esprit critique ?
C'est une enquête faite selon les canons de des sondages, donc c'est réalisé par une entreprise qui a pignon sur rue dans le secteur et qui chaque année pose les mêmes questions, mais qui a un chapitre qui change chaque année. On mesure la manière dont les Français considèrent la science, et elle est élevée, hein, c'est au-dessus de 80%
quelque chose. Pour la confiance.
La confiance dans la science et la compréhension de ce à quoi elle sert, de ce qu'elle est. Et donc ça veut dire il y a un niveau de confiance, contrairement à ce qu'on entend souvent. Les Français ont confiance en la science. Et après ça, on interroge sur la façon dont les Français se renseignent, s'informent sur ces questions-là. Et là, on voit, on n'est pas les seuls à le dire, mais on voit une différence majeure entre les jeunes générations et le reste de la population, ce qui conduit d'ailleurs à nous interroger sur comment on réagit à ça. Et puis, on interroge un échantillon représentatif sur les biais cognitifs et l'esprit critique, à chaque fois appliqué à une thématique différente. Et c'est intéressant parce qu'on a une cartographie. Mais surtout, on va avoir en longue période, si ça se continue, ce que j'espère évidemment, on va voir si les grandes tendances se confirment ou se déforment. Et puis un rêve, ce serait que le baromètre devienne européen, pour qu'on se compare à ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'on est spécifique ou est-ce finalement on est plus européen qu'on ne le croit ?
Mais si on me posait la question, est-ce que vous avez confiance dans la science, je répondrais, mais est-ce que vous pouvez préciser la question ?
Alors on la précise, les scientifiques par exemple, sur chaque sujet, on dit en qui avez-vous le plus confiance ? Et la liste évolue en fonction des sujets. C'est toujours les scientifiques qui rêvent en premier.
Oui, mais ça dépend des scientifiques, on n'a pas tous confiance dans les mêmes scientifiques, on a nos petits favoris. Et on peut avoir confiance, on a vu pendant le Covid, vers des scientifiques qui ont été discutés par la suite. Donc on aurait dit à l'époque, j'ai confiance en la science, mais en fait, on n'avait pas du tout confiance en elle. Ou bien ça peut vouloir dire, est-ce que vous avez confiance dans le fait que la science est une démarche de connaissance très particulière, qui grâce à des critères très particuliers, peut produire des résultats qu'on qualifie de scientifiques, qui ont une objectivité particulière, ce qui est une autre façon de comprendre la question. Puis au moins une troisième qui est, est-ce que vous avez confiance dans la science pour résoudre les problèmes qui se posent à nous, les défis qu'il faut relever ? Et selon qu'on la décline d'une ou l'autre de ces trois façons, à mon avis, les réponses seraient très différentes.
On pose ces questions-là, pas exactement sous cette forme, sachant qu'une photographie, c'est toujours un aplatissement du monde. On passe de trois à deux dimensions. Donc oui, vous avez évidemment raison, même si en posant la question de plusieurs manières, on s'aperçoit que...
Toujours ça marche.
Oui, que c'est heureux de voir un résultat pareil en France.
Hélène Lafoncouturier, vous Vous êtes d'accord avec ces conclusions ?
Oui, je suis d'accord.
Ces observations ?
Moi, je constate un appétit pour la science. Les gens ont envie d'aller vers ça. Oui, je constate un appétit pour la science actuellement. Ce que l'on observe...
Actuellement, ça veut dire que c'est plus fort qu'avant ?
Je trouve que par exemple, chaque année, on a la fête de la science, que, assez traditionnellement... On y participe et chaque année, le nombre de participants augmente. Donc, il y a vraiment, on sent, un besoin, en tout cas, du public d'aller vers ça.
Moi, j'avais une question un peu pratique sur la façon dont vous préparez les expositions. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le niveau en termes de connaissances de l'exposition ? Par exemple, si on fait... une exposition sur la physique des particules. Ah, qu'est-ce qu'on suppose connu du public ? Qu'est-ce qu'on suppose inconnu ?
On l'a fait pas. On ne fait pas une exposition sur la physique des particules.
Pourquoi ?
On est sûr que
il n'y aura personne.
Mais pourquoi ?
Parce que c'est une vérité d'expérience. C'est pas la démonstration. Ce raisonnement, il va être partagé par tous ceux qui gèrent des musées. Il faut à chaque fois que nous trouvions un détour éditorial. Pour intéresser les gens. Par exemple, dans une exposition sur les foules, on va parler de physique. Puisque, en fait, quand on est très serré, quand la densité est élevée, dans une foule, c'est la loi de la physique qui s'applique. Et puis, plus la densité baisse, plus ce sont les sciences sociales qu'on doit convoquer. J'aurais jamais fait...
Ah oui, c'est ce qu'on appelle la fouloscopie.
Exactement, mais on n'aurait jamais fait une exposition sur la densité. Parce que là, on est certain que personne n'aurait franchi la porte. Et puis, il n'y a pas que les expositions, il y a toute une série de sujets pour lesquels le médium exposition n'est pas forcément le meilleur, et qu'il faut plutôt aller dans de la pratique, sur le numérique en particulier. Les ateliers, la pratique, le plaisir de faire est important, que ce soit dans les Fab Labs ou ailleurs. Choisir un sujet, c'est... j'allais dire la recette, ce qui fait la qualité aussi de nos équipes, c'est de trouver la bonne thématique et surtout la bonne manière d'éditorialiser. À Univers Sciences, on a des équipes d'extrêmement grande qualité qui sont spécialisées en muséographie et on s'adjoint toujours les concours d'un groupe de scientifiques. Ils servent à quoi ? Ils servent à nous aider à élaborer le projet, à savoir ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, parce qu'en disposition, vous dites pas tout. Et à centrer le propos et à s'assurer, évidemment, c'est la moindre des choses, que les contenus sont à l'état de l'art en matière scientifique. Mais c'est un artisanat, la programmation d'un établissement, d'ailleurs culturel, quel qu'il soit. On a des échecs, on a des réussites surprises, mais j'allais dire que c'est ça qui est notre raison d'être et qui fait notre génie propre.
Hélène Lafont-Couturier, donc au Musée des Confluences, vous avez aussi un conseil scientifique, j'imagine ?
Alors, on a un conseil scientifique du musée, mais pour chacune des expositions temporaires, on crée un comité scientifique dédié à l'exposition décidée. Et les personnalités sont choisies en fonction de la thématique. Et on présente chaque fois à notre conseil scientifique les différents projets en cours.
Le numérique, pour tout le monde, constitue une sorte de révolution, en même temps de défi. En quoi le numérique change la façon de concevoir les expositions ? Est-ce que vous y avez recours massivement ou est-ce qu'au contraire, vous essayez d'offrir au public une occasion de vivre des expériences, de voir des choses, sans passer par les écrans ?
Alors, au Musée des Confluences, on travaille beaucoup à partir de collections et on est plus dans l'expérience... offerte aux visiteurs, il y a des écrans qui viennent compléter ou des projections qui viennent appuyer. Par exemple, dans Rêve, on avait, lorsqu'on rentrait dans l'exposition, au-dessus de nos têtes, un grand montage numérique sur la thématique du rêve. Mais surtout, à la fin de l'exposition, était proposé aux visiteurs de pouvoir partager leurs rêves. C'est-à-dire qu'il y avait un petit dispositif qui, lorsque le visiteur décrivait en quelques mots son rêve, par exemple, j'ai rêvé d'un éléphant rose à Venise, on voyait un éléphant rose dans Venise apparaître sur le mur. Et il pouvait ainsi partager avec les autres visiteurs. Mais ça vient dans la construction, si on en a besoin pour illustrer. Mais on essaye avant tout de recourir à d'autres types de relations. Je trouve qu'on a la chance d'avoir des collections, et des collections importantes et assez merveilleuses. Et je trouve que la collection apporte aussi une forme d'émotion, qui me rend une approche sensible, une compréhension par le sensible.
Mais est-ce que le numérique, c'est pas un concurrent pour vous, au sens où les gens peuvent estimer qu'il y a tellement d'offres dans le monde des vidéos, du numérique en général, de l'IA, qui n'ont pas besoin de se déplacer pour avoir de l'information?
Alors là, par contre, je trouve que le public vient parce qu'il a envie de voir des objets. Parce qu'il y a une rencontre avec, il y a une rencontre qu'on n'a pas depuis son écran, depuis chez soi. Et ce qui me frappe, c'est que les gens ne circulent pas avec leur téléphone tout le temps dans le musée. Quand ils sont dans le musée, ils sont dans le musée. Ils regardent les objets, ils profitent du musée. Et c'est ça, je pense, qu'il faut arriver à maintenir. On a bien sûr des projections, mais on essaye de, voilà, il faut qu'elles aient du sens.
Bruno Macquart.
Bon, je vais avoir une réponse à plusieurs étages. D'abord, pour un établissement de culture scientifique, le numérique, c'est d'abord une science. Et quand je suis arrivé au palais à la tête d'Univers Science en 2015, le palais des découvertes ne parlait pas beaucoup de numérique. On a créé une unité sur les sciences du numérique et l'informatique, avec une exposition permanente. Donc, ce sont des sciences dans lesquelles il faut aussi s'immerger. Après ça, dans les établissements comme le Palais de la Découverte ou la Cité des Sciences et l'Industrie, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de collection. Et donc, c'est la médiation qui vient être objet finalement, la médiation humaine au Palais de la Découverte, et puis la médiation intermédiée par des dispositifs à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et on peut dire qu'on a une utilisation raisonnée des écrans. Pas d'écran, par exemple, pour les petits. Dans la Cité des Bébés, non seulement il n'y a pas d'écran, mais en plus, il faut que les parents ferment leur portable. Après ça, pour les âges un peu plus grands, dans la Cité des Enfants, pour les petits, il n'y a quasiment pas d'écran, il y en a un peu plus après, mais l'idée est que c'est un outil qu'on mobilise. Et puis aussi, ce sont des pratiques. Et on a, au sein de la Cité des Sciences et de l'Industrie, une offre qui s'appelle le Carrefour Numérique, qui propose des ateliers toutes sortes qui permettent de manipuler les nouvelles technologies. Parce que c'est important aussi d'apprendre à se servir des technologies numériques qui ne sont pas toutes dématérialisées. Fab Lab à l'école, qui est... un grand programme d'éducation artistique et culturelle lancé par Univers Sciences qui est présent dans plus de 200 écoles primaires, qui vise à doter les écoles volontaires de machines et puis de techniques pour introduire la fabrication numérique. Voilà, il faut engager la tête et les jambes, le cerveau et la main, c'est important, voire même le corps, puisque comme vous le savez, la Cité des Sciences et de l'Industrie a même ouvert une exposition qui s'appelle Danser, qui se termine par un bal, parce qu'il faut engager le corps et arrêter de distinguer le physique et l'intellectuel.
Qu'est-ce que la science dit sur le bal?
Alors la science, elle dit pas grand-chose sur le bal, elle dit beaucoup sur le mouvement. Par contre, elle dit beaucoup sur le mouvement et apprendre aux petits ce que c'est que le mouvement, comment on saute, comment on tourne. Ce sont là aussi une façon d'aller chercher les gens à partir de choses qu'ils connaissent. Et puis on a le droit de s'amuser, on a aussi le droit d'être léger. Nous sommes des institutions non utilitaires. Nous sommes persuadés que nos institutions sont indispensables. Mais elles revendiquent aussi la gratuité, la légèreté, le plaisir, la joie. Et qui sont...
Le gai savoir.
Qui sont des ressorts. Nous sommes des machines à souvenirs. Il faut aussi en faire des expériences ludiques, joyeuses, festives. Qui marque l'imaginaire et qui l'associe aux sciences.
Mais à propos de marquage de l'imaginaire, Alain Aspect, qui était à votre place il y a quelques semaines, disait l'heureux souvenir qu'il avait gardé des leçons de choses que lui donnait son professeur au lycée. Est-ce que la leçon de choses, avec un expérimentateur qui montre comment ça marche devant un public, ça a de l'avenir?
C'est un modèle irremplaçable. D'avoir quelqu'un en face de soi... Il y a le contact humain, mais surtout parce que vous pouvez lui poser des questions. C'est ça qu'on oublie souvent, c'est que dans un musée dans lequel vous avez de la médiation humaine, en fait, vous pouvez interroger le musée vous répond. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart, en fait, des musées où vous repartez avec vos questions, c'est ni bien ni mal. Mais en tout cas, la médiation humaine, elle permet cette interaction de qualité qui stimule la curiosité. Et croyez-moi, quand vous assistez à une médiation aux étincelles du Palais de la Découverte, il n'y a pas de tabou, tout le monde pose des questions, y compris sur les sujets les plus divers, et c'est ça qui est très joyeux. Il faut créer les conditions pour que les gens osent poser des questions. Ne pas savoir, c'est le début du bonheur, finalement, parce qu'on sait qu'on va pouvoir aller plus loin.
En tout cas, c'est le début d'apprentissage.
Oui.
Donc, peut-être en effet du bonheur. Hélène Lafont-Couturier, quelles sont les expositions qui sont dans vos cartons que vous préparez ?
Alors, en fait, dans les expositions qui vont ouvrir, au mois d'avril, nous ouvrons une exposition sur le Sogobo, sur... voilà, c'est un théâtre ancestral malien, voilà, qui est composé de grands masques animaux et de petites marionnettes. Et voilà, c'est suite à une très grosse donation, en fait, le musée a effectivement, depuis son ouverture, reçoit de très belles donations de collectionneurs français et étrangers. Et là, c'est une très belle donation. Donc, qui sera présenté en avril. Au mois de juin, nous serons sur la Corée du Nord à travers un travail photographique conduit par Stéphane Gladieux.
Corée du Nord ?
Corée du Nord, oui. En fait, l'idée, c'est un musée qui ouvre au monde aussi. Et qui fait. Voilà, et c'est important de nourrir aussi.
Y compris au monde quand il n'est pas très ouvert.
Voilà. Et surtout, c'est des photographies que je trouve assez remarquables parce que la forme traduit le fond. Et voilà, en tout cas, c'est au mois de juin. Et puis en octobre, une très grande exposition qui traitera de la thématique des relations entre les humains et les animaux et qui s'intitulera « L'animal culte ». Et en décembre, pour finir,
oui.
Les papillons. Parce que c'est 160 000 espèces, c'est la diversité, c'est leur répartition au niveau au niveau de la Terre, et puis c'est toute la symbolique des papillons et tout le rôle qu'ils ont dans les écosystèmes.
Bruno Macquart, j'ai cru comprendre que vous étiez un drôle d'oiseau.
Je suis ingénieur agronome, c'est ça.
Vous êtes agronome et énarque. Quelle est votre passion première ? L'horticulture ?
Alors j'ai un petit... jardin secret, c'est le cas de le dire. C'est que je m'intéresse à l'horticulture alors à Paris, dans la seconde moitié du 19e siècle.
C'est un sujet historique.
C'est un sujet historique. On ne le sait pas parce qu'évidemment la ville a pris toute la place, mais il y a eu de nombreux floriculteurs, arboriculteurs, maraîchers, pépiniéristes à Paris, pas loin d'ici.
Donc si on sortait de la maison de la radio au 19e siècle, on verrait quoi autour de nous ?
Alors on verrait, alors sans doute du maraîchage, c'est intéressant parce qu'en fait Paris est une ville autosuffisante, quasiment, grâce aux chevaux qui produisaient du fumier, on pouvait amender les terrains et comme on maîtrisait en fait le forçage avec des cloches ou bien des châssis, Paris produisait énormément de fruits et légumes et puis de fleurs et de plantes. Ça a été l'époque formidable où, évidemment, on le sait, Haussmann a rénové Paris, a créé des jardins comme le parc des Buttes-Chaumont, inauguré en 1867 pour l'exposition universelle. Et ça a été un grand moment où l'industrialisation, l'urbanisation a fait qu'il y avait un retour vers la nature. On aspirait aux plantes, aux fleurs, on portait des camélias à la boutonnière quand on était un bourgeois qui avait les moyens, mais aussi on achetait un petit bouquet de violettes. Il y avait quasiment une dizaine de marchés aux fleurs à Paris, alors qu'il n'en reste plus qu'un. Et puis, évidemment, les jardins ont perdu. Et aujourd'hui, la ville a totalement enseveli ces terres-là, et puis aussi le souvenir. Et j'ai... pour envie, pour dessin, de redessiner la carte où on verrait que donc au pied des Champs-Élysées, on cultivait des tulipes. Le fondateur de la revue, l'orchidophile, il habitait à Montmartre. Et puis, dans le Bas-Belleville, rue des Noyers, une pépinière qui s'appelait Lémon, souvent de père en fils, Nicolas Pigeon, Nicolas Lémon. Le père a introduit les pélargoniums en France. On les appelait les géraniums à l'époque. Il s'est spécialisé dans la culture des ananas. Et le fils...
Vous êtes intarissable.
...était irriciculteur. Une belle histoire.
Mais vous habitez où ?
J'habite dans le 19e arrondissement de Paris.
Il y avait quoi ?
Je m'intéresse au 19e.
Ça sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Hélène Lafont-Couturier, directrice du Musée des Confluences, et Bruno Macquart, qui avait été le président d'Universcience pendant quelques années. Merci de nous avoir donné envie d'aller dans les musées pour apprendre des sciences. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique et à la mise en onde, Julien Moulet.